Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 17 avril, il est 18h. Bienvenue dans Cours d'honneur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 24 avril, il est 18h. Bienvenue dans Cours d'honneur. Bienvenue dans le magazine culturel de la Sorbonne. Une fois par mois, les étudiants de la plus vieille fac de France prennent place dans le studio de Radio Campus Paris pour voir raconter les meilleures histoires qui parcourent les couloirs de Sorbonne Université. C'est bizarre en ce moment, non? En même temps, on mélange un entre-deux-tour tendu pour la présidentielle, week-end de Pâques et ciel maussade. En plus, je doute pas que certains d'entre vous ont commencé à abuser des chocolats ce midi et continueront au moins jusqu'à demain. Bref, dans cette ambiance d'entre-deux pas décidé, nous, on vous a préparé de quoi digérer tranquillos et de quoi se requinquer. Alors, même si chez toi il fait froid ou moche, viens avec nous. Culture, sport, soleil, savoir utile et inutile, on a tout ce qu'il te faut pour repartir au taquet dans la semaine qui commence. Alors, du fond de l'amphi jusqu'au sommet des chambres de Bonne, vous êtes les bienvenus dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Salut, moi c'est Blanche. Ce soir, je te guide dans cette émission un peu spéciale, puisqu'on accueille aujourd'hui plein de nouvelles en studio. Bonjour Anaïs.
Bonjour Blanche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des présidentielles 2022-2027. Nos perspectives d'avenir, d'espoir, de désespoir, ce dont on a parlé, on n'a pas parlé. Je vous ai préparé un petit micro-trottoir, ça va être sympa.
Ok, j'ai hâte de voir ça. Et avec elle, nous avons aussi Camille.
Salut Blanche, tu connais le batch cooking ?
Non.
Eh ben, je te fais un petit tour dans ma cuisine tout à l'heure.
Oh yes, j'ai trop hâte. Bonjour Valentine.
Bonjour Blanche. Moi, je vais vous parler de la cavale du policier qui a été accusé de féminicide à la fin de janvier 2022.
Ok, j'adore. Un petit tour justice. Et d'ailleurs, Sixtine, bonjour.
Salut Blanche. Alors moi, je vais vous présenter un petit reportage sur la concurrence entre TGV et TER.
Super. Salut Emma.
Salut. Moi, je vais vous parler du concert de chez Mou Bataclan le 1er avril dernier.
Ok, petit tour en musique et pour finir, Clara, bonsoir.
Bonsoir, alors aujourd'hui on va interviewer deux spécialistes de médias bien distincts, à savoir les réseaux sociaux et les médias traditionnels. On va tenter de comprendre comment l'un et l'autre assoient leur pouvoir tout en essayant de coexister.
Et ne vous inquiétez pas, ce soir nous ne serons pas en non-mixité parce que comme toujours derrière les platines, nous avons Thomas et nous finirons avec...
Salut à tous.
Et nous finirons avec une création sonore originale de Nathan. Mais pour commencer, c'est moi qui prends la parole.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe. He created a man who became a monster.
Je vous le cache pas, pour cette semaine, j'ai pas mal galéré à écrire cet édito. Pour tout vous dire, il devait être prêt pour mercredi et j'avais du temps pour l'écrire dimanche soir. Dimanche soir, résultat du premier tour de la présidentielle, pas en état d'écrire d'une ligne. Et puis en plus, en général, j'arrive à gratter 7 minutes de parole, mais là, pour aujourd'hui, c'était 3 max. Je bloque donc sur un problème et je ne vois pas de solution. Trop peu de temps pour dire ou écrire, un trop plein de colère et de déception. Et puis les 3 minutes, ça m'a fait penser à un truc. 3, c'est le nombre d'années qu'il nous reste pour conserver une planète viable, selon le GIEC. C'est couillon parce que 3, c'est aussi le nombre d'enfants que j'aurais voulu avoir. Mais je me dis, à quoi bon? Les faire naître dans un monde qui s'effondre, dans un pays qui aura détruit ce qu'il faisait de mieux? 3 choses, le service public d'assistance, d'éducation et de santé. Parce qu'en 5 ans, la droite ou l'extrême droite n'aura aucun remords à tout raser, tout privatiser. Et puis moi, dans 5 ans, je vous l'avoue, j'aurais voulu faire de la recherche, j'en rêvais, faire progresser le savoir en fouillant dans des archives. Mais bon, je vous en ai déjà parlé, la privatisation des universités a déjà été enclenchée par notre cher président Macron. Dans 5 ans, les financements des facs publics n'auront pas cessé de réduire et les postes d'atter avec eux. Et même dans 1 an et dans 2 ans, comment vont vivre les étudiants si on privatise tranquillement leurs facs? Déjà aujourd'hui, il y en a tellement qui galèrent à payer leurs études et qui vivent dans la précarité. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche et dans 7 jours, on retourne voter. J'ai 3 choix pour décider ce qui va se passer pendant 5 ans et ça fait déjà 1 minute et 30 secondes que je vous parle. Aucun des 3 ne me satisfait. Jamais, jamais l'extrême droite n'aura mon vote. Stoppons la dédiabolisation. Le Rassemblement national est raciste, islamophobe et misogyne. Jamais. Je ne pourrai voter pour quelqu'un qui me méprise autant que le président actuel, qui sourit pour mieux nous flouer. Jamais. Je ne refuserai d'aller aux urnes. Voter est pour moi un devoir, le vote blanc ou l'abstention une fuite. Et pourtant... on va bien devoir faire quelque chose dans 7 jours. Je déciderai en pensant aux 3 ans qui restent pour la planète, aux 3 enfants que j'aurais voulu avoir et aux millions de personnes qui risquent de souffrir des politiques menées par le prochain gouvernement, quel qu'il soit. Mais surtout, je déciderai en pensant à Robespierre et à l'article en préambule de la Constitution du 24 juin 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Contre 5 années de mépris et de violation de nos droits, nous vous rendrons 5 années d'insurrection. Et pour aujourd'hui, sachez que l'émission est enregistrée dans des conditions un peu particulières, puisqu'en réalité, je vous l'avais dit qu'on était dimanche, mais aujourd'hui, on est mercredi 13 avril, et on enregistre à la Sorbonne, qui est occupée depuis 13h30 par des étudiantes et des étudiants, et on l'espère, au moment où cette émission passera, qu'ils seront toujours là, puisque un blocage vient d'être voté dans l'Assemblée de l'Amphiouri.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Après un premier tour serré, une campagne, on peut le dire particulière, nous sommes venus vous demander votre avis sur cette campagne, votre avenir et celui de la France. Tout de suite avec Anaïs.
Merci Blanche. Il y a quelques jours, je me suis déplacée directement sur le campus de la fac pour vous demander votre avis après la déception des résultats du premier tour, avec une campagne incomplète, du désespoir dans les regards. Je vous ai donné la parole, c'est tout de suite.
Selon vous, quels sont les thèmes qui ont été absents dans la campagne électorale de 2022 ?
L'écologie.
L'écologie.
Et tout ce qui va avec le rapport du GIEC qui ont complètement été écartés des politiques en 2022, sauf dans la gauche en fait.
On a relativement peu d'infos sur la défense quand même, mine de rien.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de thèmes qui n'ont pas été questionnés, c'est-à-dire qu'on a entendu parler d'écologie, mais j'ai juste l'impression que les thèmes n'ont pas été poussés en profondeur et que les thèmes importants comme les jeunes, la précarité des classes, etc., l'écologie a surtout été assez ignorée par les deux candidats qui sont au second tour.
Et après, il n'y a pas les chiffres, ils sont bien mignons avec toutes leurs propositions, mais ils ne proposent pas tous de les financer. En général, ça ne correspond pas en termes de chiffres.
Qu'est-ce qui devrait être la priorité des débats publics pour la prochaine présidentielle ?
Il serait grand temps de parler d'écologie, parce que ça va commencer à faire beaucoup de temps qu'il faut en parler et qu'on n'en parle pas.
Pour moi, ce serait le système présidentiel, le système d'élection. On devrait remettre en cause la République.
Encore une fois, c'est l'écologie. En se rapportant au rapport du GIEC, on voit que si malheureusement on fait rien maintenant, il n'y aura sûrement pas de prochaine présidentielle.
Selon vous, où en sera la France dans 5 ans ?
Pas très loin, je pense. Si les choses changent, je pense que ça sera pas pour le positif commun, mais seulement pour privilégier des personnes qui le sont déjà. Donc je pense pas que les situations de problèmes actuels vont s'améliorer. On sera dans un endroit assez négatif où les jeunes n'ont pas trop envie de se visualiser.
Et franchement, j'en ai un peu aucune idée et c'est un peu très inquiétant. Très très inquiétant.
Mal, très mal. À l'issue du coup déjà du premier tour avec notre cher Macron et notre chère Marine Le Pen, on voit tout de suite une prédominance à droite, creusant encore d'autres inégalités. Ce qu'on verra je pense dans 5 ans, c'est un écart très fort entre les minorités, que ce soit entre les personnes pauvres ou riches, entre les minorités diverses. La France sera très mal dans 5 ans.
Et vous, où est-ce que vous en serez dans 5 ans ?
Je serai plus en France dans 5 ans.
Eh ben dans 5 ans, je sais pas, en master peut-être ? Ça les fesses ?
Eh ben, j'espère que dans 5 ans on sera en master, mais bon, pour la suite.
Du coup, les jeunes, les minorités et surtout l'écologie, les grands oubliés de la présidentielle, on en pense quoi au studio ?
Ouais, clairement, pour moi, les grandes oubliées, c'est quand même les femmes. Dans ces présidentielles, on en a tellement peu parlé, où c'est toujours, je suis d'accord avec une des personnes qui avait été interrogée, c'est toujours des questions de superficialité, en fait. On n'en parle pas profondément des problèmes.
Ouais. On nous dit on va le sortir encore une fois hein, parce qu'on peut pas y échapper, la grande cause du quinquennat. MDR, on a quand même pas mal lutté pour que le 3919, qui est un numéro d'appel et d'assistance, n'hésitez pas à l'appeler si vous nous écoutez, reste en place. Donc là au final avec la droite et l'extrême droite, les droits des femmes, moi j'ai un peu peur pour mon droit à l'avortement quoi, je vous l'avoue.
Clairement.
Et je trouve aussi que d'un point de vue plus général, enfin pas que les femmes mais aussi les minorités... en général, ont été quand même oubliés de la présidentielle, enfin du débat de la présidentielle. Et je rejoins aussi ce qui a été dit dans le micro-trottoir. Effectivement, l'écologie est complètement zappée par Macron ou même Le Pen. Et c'est ce qui fait d'ailleurs très peur pour le prochain tour à venir.
Non, mais c'est clair. Mais même quand on voit que le seul moment où on parle de banlieue, c'est pour parler d'ensauvagement, c'est que déjà, il y a un gros problème.
Mais j'ai écouté un truc bah, à la radio justement, mais je sais plus qui l'avait fait, qui en gros disait que les banlieues et toutes ces zones-là votaient tellement peu que les candidats avaient cessé d'essayer de récupérer leur vote et du coup ils avaient juste genre squeezé de leur campagne en mode bon bah dans tous les cas ils voteront pas donc ils voteront pas pour nous et on va se concentrer sur genre d'autres cibles, genre que c'était genre c'est bon c'est perdu donc on y a plus. Je trouvais ça genre hyper déprimant parce qu'on est censé faire société tous ensemble quand même.
Ouais, totalement. Il y a une énorme, enfin la fracture sociale est très peu envisagée je trouve pour les élections et d'ailleurs c'est ce qui fait peur pour les 5 prochaines années à venir quoi.
Et mine de rien les banlieues 50% pour Mélenchon hein, les outre-mer Guadeloupe, Martinique dont on a très peu parlé d'ailleurs à part pour comparer à la Corse. Merci beaucoup ça change rien. Il y a d'autres problèmes en outre-mer que de dire oh, ils ont fait la même chose en Corse.
Ouais. Mais c'est, tu vois du coup où était le programme social.
Programme social, comment ça ? Il y avait un programme social ?
Non, mais. Enfin, si, il y avait un programme social proposé par la France Insoumise.
Oui, je parlais des deux candidats.
Ah oui, non, c'est clair. On se retrouve au deuxième tour. Où est le programme social au premier tour ? Ça, c'est...
Après, le programme de Marine Le Pen est aussi un vrai programme social, puisque c'est elle aujourd'hui qui s'adresse en particulier aux classes populaires, aux classes rurales, à ceux qui sont délaissés, on va dire, par les élites qui ne vont plus faire campagne.
Oui, mais, à ceux qui sont blancs quand même.
C'est du social-populisme, mais aujourd'hui, les classes populaires votent pour elle en majorité parce que c'est elle qui dit « je vais vous protéger ».
Mais d'un autre côté... elle peut dire je vais vous protéger, mais elle va dire je vais vous protéger aux pauvres blancs. Et certes, nous ce qu'on veut, vous je ne sais pas, mais moi ce que je veux c'est qu'on protège tout le monde et pas spécifiquement des gens parce que leurs parents, leurs arrière-grands-parents ou qui sais-je étaient français et qui sont français depuis des générations. Ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui vivent ensemble dans un pays maintenant et si évidemment on commence à monter les personnes en situation compliquée les unes contre les autres, c'est toujours plus facile de se dire qu'on est préféré à un autre groupe. Et en ça, je comprends les personnes défavorisées, mais qui sont quand même dans le côté pratique d'être blanc pour... de voter pour Marine Le Pen, c'est toujours rassurant de se dire qu'on est préféré à d'autres. Mais bon, on est censé vivre tous ensemble.
Et toutes.
Tous et toutes, exactement. Surtout sur le plateau, on est plutôt sur du toutes.
Alors moi, je pense notamment au documentaire de François Ruffin qui s'appelle « Debout les femmes », qui est centré sur les travaux invisibles, par exemple les auxiliaires de vie, les AVS, etc. Et moi, justement, j'aurais aimé qu'on parle davantage de ces femmes-là, puisque oui, ce sont des travaux précaires qui sont majoritairement occupés par des femmes, et on n'en a pas du tout parlé, et donc je trouve ça assez dommage, parce que si on comprend bien, en fait, elles vont devoir continuer à trimer pour rien. Pour presque rien.
Ouais, et sur toute cette colère qu'on aura dans tous les cas jamais assez de temps pour exprimer, on va respirer un grand coup en écoutant Atomique de Blondie. We'll be right back.
C'était Atomique de Blondie dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Ce soir, on vous a déjà parlé de ce que serait la France dans 5 ans avec Anaïs, et maintenant, sur le plateau de RSU, on accueille Laetitia Chatillon, la fondatrice de Youdeo, une agence d'influenceurs parisienne. Au micro, Camille et Clara vont chercher à en savoir plus sur l'avenir des réseaux sociaux, aujourd'hui devenus de vrais médias de masse.
Bonjour Laetitia Chatillon.
Bonsoir.
Tout d'abord, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Première question, pourriez-vous nous résumer en quelques mots quelle est la mission de Youdeo ?
Tout à fait, merci pour l'invitation. Donc Youdeo, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence d'influence marketing. On accompagne des créateurs et des créatrices de contenu sur différents réseaux tels que YouTube, Instagram, Twitch ou TikTok dans la création de contenu artistique, production audiovisuelle, photo, mais aussi économique, en négociant pour eux des partenariats avec des annonceurs qui correspondent à leur ligne éditoriale.
Ok, très bien. Ben, merci pour cette réponse. Vous parlez un peu des risques pour les médias face à l'avènement des réseaux sociaux. J'ai une question à vous poser. Donc, les réseaux sociaux sont devenus la principale source d'information pour les 18-25 ans. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque trop important d'être mal informé en se basant sur les réseaux sociaux, justement.
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que l'accès aux réseaux sociaux et même le fait de pouvoir poster du contenu est accessible à tous. Aujourd'hui, on peut se créer un compte sur les réseaux sociaux à partir de l'âge de 13 ans. C'est pour ça qu'il y a tout un devoir... en effet, d'institutions par rapport aux réseaux sociaux qui doit être présent sur le fait que vérifier les vraies informations ou autres sur les réseaux. Donc, il y a toute une éducation, une pédagogie aussi à inculquer.
Et nous avons vu que vous suiviez Gaspard G ou JTO News. Est-ce que vous avez... des conseils à leur donner. Est-ce que Youdeo, vous avez une influence sur ce qu'ils vont dire ou une façon de gérer les informations qu'ils vont donner sur les réseaux sociaux ?
Alors oui, en effet, on travaille avec Gaspard G, JTO News. Moi-même, j'ai accompagné Hugo Décrypte dans la création de son média. Là-dessus, le positionnement en tant qu'agent, c'est certes de vérifier la pertinence de leur contenu, mais aussi la qualité de leur information. Par contre, nous n'avons pas notre mot à dire sur la création de leur contenu, sur leurs sources. C'est à nous, à partir du moment où on les représente, que ce soit auprès de nos clients, mais aussi aux gens qui nous suivent, de faire ce travail de recherche et comme pour tout autre créateur d'ailleurs, vulgarisateur de contenu, sur la pertinence de leurs propos.
Très bien, merci. Je laisse la parole à Clara.
En tant que principale source d'information pour les jeunes, pensez-vous que les réseaux sociaux sont l'avenir des médias ?
Je pense que les médias traditionnels auront toujours leur place au sein de la société. Et d'ailleurs, on en a besoin aujourd'hui. Je pense même d'ailleurs qu'ils sont complémentaires. Quand on voit que des médias comme les chaînes télévisées ou même radio laissent la place ou même s'ouvrent vers des réseaux sociaux comme... Twitch, où c'est de la libre antenne diffusée en direct sur Internet. Les réseaux sociaux doivent être complémentaires avec les médias traditionnels. Et je dirais même aussi que ce n'est pas forcément le même métier. Quelqu'un qui vulgarise l'information sur les réseaux sociaux ne reste pas, bien qu'il parle de politique ou d'actualité, ne reste pas journaliste. Et ça, pour moi, ce sont des métiers à part entière et où il faut bien faire distinction.
Mais à ce titre, il y a par exemple sur Twitch une émission de Jean Massier et il y a le journaliste Usul qui intervient souvent. Mais pourtant,
tout à fait, Backseat, oui.
Oui, voilà, Backseat, merci. Mais du coup, lui, il est journaliste, mais donc il y a quand même une fusion.
Alors, Jean Massier n'a pas une carrière de journaliste lui-même.
Usul, je parlais, pardon.
Ouais, Usul, en effet, travaille notamment pour Mediapart. Il y a c'est un exemple en soi où, en tant que parfois journaliste, on peut avoir accès, utiliser même les réseaux sociaux pour intervenir. Mais encore une fois, on voit que c'est une complémentarité dans ces émissions qui sont proposées.
D'accord, très bien, merci. Et donc oui, du coup, les réseaux sociaux seraient complémentaires des médias traditionnels. Vous ne pensez pas qu'ils pourraient, à terme, remplacer les médias traditionnels ?
Non, pour moi, ils sont vraiment complémentaires, même si aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en effet, comme vous l'avez dit au début de l'émission, la source d'information peut-être la plus utilisée pour les 18-25 ans. C'est aussi aux médias traditionnels de trouver leur place, comme ils le font très bien aujourd'hui, sur les réseaux sociaux pour toucher cette audience, cette nouvelle audience, telle que le fait par exemple Samuel et Étienne sur Twitch avec ses chroniques ou ses émissions. Par exemple, on peut voir que tous les médias traditionnels ont leur présence sur des réseaux sociaux comme TikTok. Je pense par exemple à BFM TV, je pense à Libération, au Monde, qui d'ailleurs du coup s'ouvre aussi aux réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est vraiment une question de complémentarité aussi.
Très bien, merci.
Et juste une dernière question, Madame Châtillon. Craignez-vous tout de même quelques dangers face à cette expansion massive des réseaux sociaux sur notre façon de nous informer ?
Instinctivement, je dirais oui, dans le sens où aujourd'hui, n'importe qui peut poster du contenu sur les réseaux et puis il est facile de faire passer des messages. D'ailleurs, on a pu le voir aussi pendant ces élections présidentielle ou même de façon plus généraliste. Après, c'est aussi il y a tout un travail de modération qui doit être mis en place par les réseaux sociaux en eux-mêmes. Aujourd'hui, je sais par exemple que nos équipes chez YouTube, chez TikTok ont des modérateurs qui sont là en ligne, même si on peut penser que l'algorithme est unique là-dedans. Il y a des véritables personnes humaines qui sont là pour vérifier le contenu, notamment à travail des modérations. C'est pour ça que j'invite tout utilisateur ou consommateur des réseaux sociaux à signaler dès qu'il trouve un contenu dangereux. Et à partir de là, il ne faut pas oublier qu'il y a des équipes de modérateurs qui ont pour travail de contrôler l'information.
Ok, ben en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps et on vous souhaite une très belle soirée.
Ben, un grand merci, c'est toujours un plaisir et un grand merci pour l'invitation.
De rien, bah encore une fois, merci d'être venu nous parler dans Cours d'honneur. Pour le coup, on est plutôt un média traditionnel avec la radio, mais vous inquiétez pas, on redynamise tout ça avec l'énergie des étudiantes des Sorbonnes.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, la table!
Devenu tendance avec le Covid, le batch cooking ou cuisine en série s'installe dans nos foyers. Aujourd'hui, Camille nous propose de faire un détour par sa cuisine et elle nous en parle personnellement.
Alors, il y a de ça un an, je me suis découvert une grande passion pour la cuisine. J'ai commencé à ne plus utiliser de produits transformés. Je suivais des recettes, puis j'ai rapidement commencé à improviser. Alors par contre, je fais surtout du salé. Les aficionados de la nourriture savent qu'en cuisine sucrée, on peut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, mes quelques essais se sont avérés immangeables.
Bon, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein.
En plus des effets évidemment positifs sur la santé, cuisiner a un réel impact sur l'état d'esprit. Après une longue journée de cours et de courses dans les transports, ça me permet de me détendre. La cuisine, c'est un peu mon coin-spa finalement.
Bonjour et bienvenue dans cette séance où je vous propose une détente profonde. Prenez un temps pour vous installer confortablement et fermez vos yeux.
Comme pour beaucoup de Français, héritiers de la grande gastronomie, la nourriture a quelque chose de réconfortant pour moi. On s'installe en famille autour d'un bon plat, on partage un moment convivial avec nos proches. Je pense alors, non sans un sourire, à cette chanson d'Anaïs, amère envers les couples qui partagent un repas.
Ça dégouline d'amour, c'est beau mais c'est insupportable. C'est un pudding bien lourd, de mots doux à chaque phrase. Elle est bonne, ta quiche amour, mon cœur passe-moi la salade. Et ça se fait des mamours, se donne la béquille à table.
Avec la reprise des cours et un emploi du temps bien chargé, il m'est devenu impossible de cuisiner tous les soirs. Je me suis donc essayée au batch cooking. Le dimanche, je prends possession de la cuisine familiale pour 3 heures et je prépare des plats pour la semaine.
Dans la cuisine, c'est moi le patron.
Ah, la cuisine, c'est votre domaine.
Oui.
Pendant les confinements, les gens ont eu plus de temps pour cuisiner et le principe du batch cooking s'est transformé en tendance. Preuve de cet engouement, les nombreuses chaînes YouTube spécialisées et les 5 publications du compte Instagram Hachette Cuisine dédiées à l'iconique Bible du batch cooking en 2 heures. Conservation des aliments, menus, techniques ancestrales, il paraît que vous deviendrez un expert de la cuisine si vous achetez ce livre. Enfin bref, j'espère vous avoir donné envie de vous installer derrière vos fourneaux. Et pour finir sur une note douce et sucrée, je laisse la parole à cette chère peau d'âne.
Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées, autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'il soit du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours.
Bah, merci beaucoup Camille de nous avoir transporté dans la cuisine et pour ma part aussi retransporté dans le film Peau d'âne. J'étais en transe.
Avec plaisir.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Rebondissement dans l'affaire du policier Arnaud Bonnefoy, soupçonné d'avoir tué sa compagne le 28 janvier dernier à Paris. Après une fuite de près de 3 semaines, il a été déféré devant la juge d'instruction le jeudi 24 février avant d'être mis en examen. Il est actuellement placé en détention provisoire. Valentine nous propose un retour sur cette inimaginable cavale.
Nous sommes le vendredi 28 janvier 2022. Il est 20h50 quand le drame est découvert. Les collègues d'Arnaud, sans nouvelles de lui, décident de se rendre à son domicile conjugal. Malheureusement, pas de traces de l'homme, mais le corps de sa femme, sans vie, gisant dans son bac de douche. Une brigade du 19e arrondissement est mobilisée, l'autopsie révèle une mort par étranglement. Arnaud reste introuvable et le parquet de Paris privilégie alors la piste criminelle comme chef d'inculpation, homicide volontaire sur concubin. En 2019, il avait fait l'objet d'une garde à vue et avait dû suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Arnaud a 29 ans. Il est policier dans le commissariat du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Il est décrit par ses voisins et collègues comme quelqu'un de réservé, banal, distant. Une absence de violence qui sonne comme une illusion face à la réalité du cadre privé. Les réactions sur les réseaux sociaux sont vives. La militante féministe Caroline De Haas déclare « Un policier est connu pour violence conjugale et le ministère de l'Intérieur lui laisse son arme. Ça doit être une erreur, ce n'est pas possible. » C'est alors le début d'une folle cavale de 3 semaines. Arnaud, en compagnie de son arme de service, prend la fuite à bord de sa Peugeot 208 blanche. Le 9 février, il retire la somme de 1500 euros dans la ville de Breteuil. C'est le signe de vie tant attendu par les enquêteurs. 2 jours plus tard, l'appel à témoins est enfin lancé. Les forces de police justifient cette publication tardive par la dangerosité de l'individu. La prudence est donc de mise. Arnaud ne doit pas se sentir cerné. C'est d'ailleurs ce jour-là que nous retrouverons sa voiture et son arme sur un parking à Amiens. Le 18 février, c'est le père d'Arnaud qui diffuse une vidéo pour demander à son fils de se rendre.
Et il faut le, fais-le pour Amanda, fais-le pour ses parents, sa famille, on a besoin de savoir. Voilà, maintenant, je te demande d'arrêter, de te rendre sans délai. Tu sais, je suis ton père et tu seras toujours mon fils. Voilà, maintenant, il est temps de tout arrêter. Dépêche-toi, s'il te plaît.
C'est ensuite la juge d'instruction qui ordonne la diffusion d'un second appel à témoins. Nous sommes le mardi 22 février. Il est 9h45 lorsqu'Arnaud décide de se rendre en appelant la gendarmerie depuis la maison de son père. C'est la fin d'un macabre périple. Après avoir été déféré et mis en examen, le jeudi 24 février, il fait à présent l'objet d'une détention provisoire. Le contre-coup de l'arrestation est poignant. L'avocat de la partie civile estime qu'il s'agissait d'un crime de sang-froid. Plusieurs manquements ont été relevés lors de la découverte de cette affaire, à commencer par l'usage de cette arme. Arnaud n'était plus censé la ramener chez lui depuis le printemps 2021. L'IGPN a d'ailleurs ouvert une enquête à ce sujet. La victime se nommait Amanda Glin. Elle avait 28 ans. C'est la 12e victime de féminicide du mois de janvier 2022. Elle avait beaucoup de talent. Ma sœur était une fille passionnée de tout. Une jeune femme incroyable. Il faut que tout le monde le sache. Décrit Charlie, son frère. Pour rappel, le nombre de féminicides s'élevait à 113 pour l'année 2021. Et en moyenne en France, il y a un féminicide tous les deux jours.
Merci pour cette remise au point à la fois judiciaire et politique. On en a bien besoin et pour se remettre dans l'ambiance, vu qu'on a besoin de justice, on va écouter We Are Your Friends de Justice. C'était We Are Your Friends de Justice dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Petit point d'étape dans cette émission super riche. Avec Camille, on est passé en cuisine et avec Valentine, on est revenu sur une affaire de féminicide.
C'est notre invité du jour.
Avec nos invités que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir ce soir.
On reprend maintenant notre questionnement sur l'avenir des médias avec notre deuxième invité, Florent Jésupré, directeur d'études auprès de l'agence Think Out. Camille et Clara s'apprêtent à lui poser quelques questions sur le rôle et l'impact des médias traditionnels de nos jours.
Bonjour Florent Jésupré.
Salut à vous, merci de m'accueillir.
Merci, on vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier ?
Alors oui, je suis directeur d'études. Marketing, alors c'est un nom un peu pompeux pour dire que nous réalisons, et au sein, moi et mes collègues au sein de l'agence Think Out, qui est une agence d'études qualitatives marketing, c'est-à-dire que nous réalisons des études, des enquêtes auprès de consommateurs, auprès de téléspectateurs, à l'inverse d'un cabinet d'études quantitatives qui va réaliser des sondages et qui va avoir des tas de chiffres pour expliquer tel ou tel phénomène. Nous, en fait, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces chiffres et en fait de comprendre le pourquoi. Notre job, c'est d'expliquer ce qui se cache derrière l'audience, au final, puisqu'on travaille beaucoup pour des médias français comme TF1, M6, France Télévisions, Radio France, NRJ, etc. Notre job, c'est d'expliquer ce qui se cache derrière l'audience ou l'absence d'audience, donc les ressorts de l'adhésion ou de la désaffection envers un programme, un animateur, une chaîne, etc.
Très bien. Et en parlant d'enquête, il y a une enquête récente de Diploméo qui considère que 65% des 18-25 ans utilisent les réseaux sociaux pour s'informer. Vous, comme spécialiste des médias traditionnels, quelle stratégie, justement, les médias traditionnels peuvent-ils mettre en place pour conquérir les jeunes ?
Alors, c'est une vaste question. Il y a évidemment plein de stratégies à mettre en place, enfin, plein d'éléments stratégiques qui peuvent s'emparer les marques médias traditionnelles. J'imagine que par les marques médias un peu classiques, vous entendez tous les acteurs qui existent depuis longtemps, qui peuvent
oui,
être
c'est ça, Radio
voilà,
TV,
France Inter, BFM TV, etc.
Ouais.
Parvenir à capter l'audience des jeunes, c'est à la fois un enjeu, c'est d'être présent dans leur environnement de consommation de contenu direct, donc c'est, vous dites, les réseaux sociaux. Donc il y a évidemment l'enjeu d'être présent dessus, mais ça suffit pas. Il s'agit pas de faire du BFM sur Twitter, c'est parce sûr. Que ça n'a pas de sens. Ou alors de faire du France Inter sur Twitch. Il faut épouser l'écriture, la grammaire de ces réseaux-là, les références de ce public-là, pour s'adresser pertinemment à eux. Donc il y a la nécessité de s'inscrire dans des codes qui sont propres à l'environnement dans lequel on évolue, ça c'est logique. Et puis il y a d'autres éléments. C'est nécessaire on va dire que il y a une spécificité des médias classiques. Ils ont cette capacité à réunir beaucoup de monde à la même heure devant le même contenu, et ça a beaucoup de valeur. Sur les réseaux sociaux, bah effectivement, on s'adresse à une audience beaucoup plus éclatée, avec des gens très différents, avec des et donc là, la nécessité, c'est de changer un peu de façon de faire et donc de plus être dans un format, un schéma de relations où en fait on va s'adresser aux gens de manière un peu descendante, etc. Mais les réseaux sociaux imposent d'être dans une forme d'horizontalité, dans une relation différente au public. On va pas considérer les gens comme une audience et comme un tout, mais vraiment comme des individus, comme une communauté. Et donc c'est ça qu'il faut faire vivre. Et ça, force est de reconnaître qu'ils ont quand même du mal.
Et Monsieur Jésus-Pré, à ce propos, quel est d'après vous le support médiatique qui pâtit le plus de l'avènement des réseaux sociaux ?
Alors, je dirais pas qu'il y a des médias qui pâtissent ou pas. Il y a pas de médias qui disparaissent. Les médias, ils se transforment. Et d'ailleurs, il faut différencier peut-être médium et média. Évidemment que le poste FM, à long terme, il va disparaître. C'est sûr, plus personne n'écoutera la radio de cette façon-là. Mais la radio en elle-même, comme média, va pas disparaître. On va écouter, on écoute des podcasts sur Spotify, on écoute encore la radio en voiture. Il y a des choses qui se transforment. Quand la télé est arrivée dans les années, on n'était pas nés il y a longtemps. Tout le monde s'est dit que la radio allait disparaître. Mais force est de constater que vous êtes en train de m'interviewer à la radio. Oui. Et donc c'est qu'elle n'a pas disparu. C'est juste que voilà, les médias, ils évoluent, ils s'adaptent. Et puis ce qui compte, c'est la façon dont on adresse le contenu, je le disais, sur les différentes plateformes, auprès des différents publics, les formats qu'on va adapter.
Et selon vous, quelles sont les spécificités des médias traditionnels qui ne pourront jamais être remplacés par les réseaux sociaux ?
Bah, ce qui fait leur spécificité, je le disais, c'est effectivement cette capacité à créer ce qu'on appelle nous du cérémoniel, donc de réunir les gens sur un même contenu, ça peut être, et ils réussissent encore à faire, hein, les grandes soirées électorales, Koh-Lanta, un match de foot, ben voilà, c'est ce qui fait leur valeur aujourd'hui, c'est ce qui fait leur puissance, leur valeur économique, hein, puisque pour les annonceurs, c'est quand même très intéressant d'avoir au même moment, au même endroit, un public auquel on peut adresser de la publicité. Ça, c'est ce qui fait, leur valeur. Et puis, ça a une valeur aussi collective. C'est-à-dire qu'au même moment, des gens vont vivre le même événement, les mêmes émotions ensemble. Ça, c'est très, très fort.
Mais
ils ont cette force de frappe-là encore aujourd'hui.
Sur les réseaux sociaux, il y a aussi des rendez-vous, comme ça peut être Backseat, l'émission de Jean Massier sur Twitch, ou Mashup d'Hugo Décrypte plus récemment, avec un rendez-vous. On va avoir Popcorn aussi, des rendez-vous qui rassemblent énormément de personnes.
Tout à fait.
Du coup, est-ce que c'est une spécificité finale?
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a cette spécificité-là c'est ce qui leur reste encore quand même. Mais effectivement, ils n'ont plus le monopole de ce cérémoniel-là, parce qu'on voit, par exemple, tu cites des bons exemples, mais quand il y a eu le succès immense là du Z-Event en 2021 sur Twitch, ils ont réuni près de 700 000 viewers au même moment. Donc on voit que voilà, c'est quelque chose que les plateformes réussissent à faire aussi, que d'autres acteurs réussissent à faire qui ne sont pas les acteurs traditionnels. Mais quand on voit que Netflix, du coup, c'est pas, les gens le regardent pas la série au même moment, mais quand on a l'impression que tout le monde autour de soi a vu Squid Game, bah, ils recréent en fait une sorte de cérémoniel qui est pas en direct, mais qui est en tout cas symbolique. Et ils parviennent à recréer une urgence à voir la série, ils parviennent à créer de la conversation collective autour de cette série. Et Amazon, on voit aussi, se met à diffuser du sport. On voit que quand Macron décide de s'exprimer, il va sur Brut. Donc oui, effectivement, ces médias-là, les médias classiques, on va dire les marques médias classiques, traditionnelles, installées, ils ont un peu chaud.
Voilà, mais du coup, s'ils n'ont plus ce monopole de cette spécificité, qu'est-ce qu'il leur reste ?
Bah, il leur reste encore que, on va dire qu'une soirée électorale sur France 2, c'est quand même des millions et des millions de téléspectateurs, c'est pas rien. Il leur reste aussi c'est des marques qui sont quand même très installées dans l'imaginaire du public. Ils ont une forte légitimité auprès du grand public, notamment sur l'information. C'est-à-dire que voilà, c'est des médias qui ont, pour s'informer, c'est quand même des médias vers lesquels on va, même si il y a d'autres médias alternatifs qui montent et qui prouvent qu'on peut faire de la formation de qualité aussi. Mais effectivement, ils ont des spécificités, elles sont de plus en plus attaquées. Donc je vais pas vous mentir en disant que leur avenir est pas menacé. Ils sont effectivement dans une situation où ils doivent vraiment se bouger pour capter de nouveaux publics, pour être présent et de manière efficace et de manière pertinente sur les nouveaux écosystèmes, les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Non, vraiment, ils ont beaucoup de travail dans un contexte, en plus, on a oublié de le dire, mais où ces marques-là, elles sont de plus en plus affaiblies parce qu'en fait, c'est un secteur complètement en crise où les budgets fondent d'année en année et quand on donne moins de moyens à l'information ou à la création de contenu, bah, ça se paye au niveau de l'audience, hein. Ils sont face à des acteurs, eux, qui dépensent des millions et des millions et qui sont très qualitatifs. Et donc, eux, mécaniquement, ils ont de moins en moins d'argent, c'est de moins en moins qualitatif ce qu'ils font. Et les gens sont pas cons, hein. Ils voient que la qualité est ailleurs, et qu'elle est plus auprès des grands médias traditionnels installés. Ils vont aller en face.
Juste une dernière question. Pourquoi est-il important, selon vous, de continuer à s'informer à travers les médias traditionnels classiques?
Je sais pas si c'est important de s'informer à travers les médias traditionnels classiques. C'est en tout cas important de s'informer tout court. Quand on disait que ces médias-là classiques, ils ont encore cette valeur collective, cette valeur cérémonielle, c'est parce que l'information, c'est quelque chose qui doit nous permettre, nous, en tant que citoyens, de pouvoir faire des choix, de pouvoir nous investir dans la vie, dans la société, dans la vie collective. Et donc, c'est important de partager à un moment donné les mêmes représentations de la réalité, les mêmes représentations d'un monde qu'on aurait en commun. Et c'est vrai que on l'a vu avec les réseaux sociaux, ça a tendance un peu à éclater. À atomiser l'audience et donc de créer ces fameuses bulles cognitives dans lesquelles les gens sont dans des réalités un peu parallèles et ils ne partagent plus une vision commune en tout cas des événements et de la façon dont les choses se déroulent. Et ça, c'est quand même un danger parce qu'en fait, si on partage pas des choses ensemble, et ben au moment de faire des choix de société, au moment de faire des que ce soit des élections mais que ce soit aussi tout simplement dans la vie de notre ville, dans la vie de notre université, et ben c'est quand même important de se retrouver sur des choses, sur le fait qu'on partage la même réalité.
Ok, ben en tout cas, on vous remercie de nous avoir accordé ce temps et on vous souhaite une très belle soirée.
Je vous remercie.
Et nous
bonne soirée et puis bon coup. Et bon courage pour le blocus, on m'a dit.
Ah, merci. Ah ouais, ça vous inquiétez pas, on est au taquet. Et justement, on va continuer notre cérémonie radiophonique pas classique en plein blocus avec un reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Après le succès en 2017 de la ligne TGV Paris-Bordeaux en 2h04, la SNCF se lance dans le projet de construction d'une ligne TGV Paris-Toulouse en 3h, qui verrait le jour en 2030. Pourtant, face à ce projet de grande envergure, la SNCF supprime depuis quelques années des trains et même des lignes entières dans un souci de rentabilité. Paris-Toulouse en 3 heures, est-ce un progrès réjouissant ou le signe d'un énième avantage de la capitale sur le reste de l'Hexagone? C'est le reportage de Sixtine.
Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Paris-Toulouse est enfin sur de bons rails. Permettez-moi ce jeu de mots facile. Récemment, les 24 collectivités territoriales concernées des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont validé le plan de financement des travaux d'un montant de 14,3 milliards d'euros. Avec des travaux devant débuter en 2024, cette nouvelle ligne à grande vitesse permettra, lors de sa mise en service en 2030, de voyager depuis la capitale jusqu'à la ville rose en 3 heures contre 4 actuellement. Julien, 27 ans, que nous avons rencontré sur le quai de la gare, valise à la main, nous donne son avis.
D'après vous, est-ce qu'il faudrait valoriser les lignes à grande vitesse qui sont plus rentables et fermer les petites lignes?
Venant en fait justement plutôt d'un territoire de campagne, moi j'aurais tendance à dire que c'est dommage en fait justement pour les petites lignes parce que c'est très difficile de rejoindre souvent les grandes villes et tout ça parce que effectivement on n'a plus les connexions, en fait on est obligé de se rendre d'abord dans les grandes villes en voiture pour ensuite être connecté sur d'autres chemins en fait.
Prenant les lignes de campagne, vous avez l'impression d'être un peu délaissé par rapport aux lignes de TGV
Oui, effectivement, parce que voilà, c'est toujours l'aspect économique qui va diriger plutôt que l'aspect de l'aspect vraiment d'interconnexion et tout ça des territoires. Et effectivement, il y a des territoires qui sont vraiment qui ont été déconnectés. Il y a beaucoup de petites lignes qui ont été fermées. Où vraiment avant, on avait un accès quand même. On pouvait se rendre très rapidement dans les grandes villes et on avait une meilleure intermodalité finalement. Maintenant, où il faut beaucoup plus se reposer du coup sur la voiture, ce qui est dommage dans une période où finalement on essaye d'aller vers moins de voitures.
Si pour Julien, cette ligne TGV est un progrès qui ne doit pas entraver le développement des petites lignes, voyons ce que nous dit Thomas, travailleur à la SNCF.
Pensez-vous que cette ligne ferroviaire à grande vitesse soit une priorité pour la compagnie ferroviaire SNCF en perte de vitesse?
Ça dépend des choix politiques. Le réseau restera public et ce choix appartient donc aux politiques. C'est donc les politiques qui décident de construire ou non de nouvelles lignes en fonction des aspirations des citoyens, des élus et des besoins qu'ils auraient identifiés.
Et d'après vous, la SNCF délaisse-t-elle progressivement les lignes TER au profit des lignes TGV?
SNCF Voyageurs n'a pas de souhait de délaisser particulièrement les lignes TER. Au contraire, l'objectif des SNCF Voyageurs reste de conquérir de nouveaux clients et de faire en sorte que le train soit choisi par de plus en plus de Français pour atteindre les objectifs de développement durable. Cependant, l'état du réseau actuel et les investissements effectués par les pouvoirs publics sur le réseau ne permettent pas toujours d'augmenter ou de maintenir les fréquences sur le réseau secondaire. Effectivement, il peut être parfois compliqué de faire rouler plus de trains.
Et quelles sont, selon vous, les conséquences de la construction de cette ligne pour les usagers, et à plus large échelle pour la société SNCF?
Pour les usagers, dans un premier temps, évidemment, il y aura un gain de temps. Ce sera une amélioration de la qualité de service et de la robustesse pour la métropole de Toulouse. On va également libérer des sillons pour pouvoir faire circuler plus de trains du quotidien sur la voie classique, ce qui sera bénéfique. Cependant, il serait dommageable que soient délaissées justement les lignes secondaires. Ça, seuls les politiques, encore une fois, ont la réponse à cette question, puisque c'est eux qui décident des budgets. Moi, j'espère que la construction de ces lignes, ce qui est très très bien, n'ampute pas les budgets des autres lignes, comme ça a pu se constater par le passé, hélas.
Le TGV Paris-Toulouse en 3 heures au lieu de 4 est une ouverture sur le sud de la France, un véritable progrès qui sera profité à un grand nombre de voyageurs. Pourtant, ce projet semble faire de l'ombre aux petites lignes. En réalité, TGV et TER ne sont pas à mettre sur le même plan, mais sont deux modes de transport qu'il s'agit de repenser et de revaloriser pour répondre au mieux aux besoins de tous les usagers.
Et oui, justement, moi, ça m'a fait réagir, répondre au mieux aux besoins de tous les usagers. L'employé de la SNCF, il avait un discours quand même vachement stéréotypé, vachement genre, c'est les politiques publiques, on est une boîte publique. J'ai l'impression qu'il n'a pas vu passer le début de privatisation de la SNCF, lui.
Si, justement, ouais, il a vu, il avait l'air de dire que c'était plus... c'était d'un commun accord avec les politiques et la SNCF et que justement il fallait que ça reste comme ça et que ce soit pas uniquement la SNCF qui gère les lignes.
Ouais, mais le truc des politiques, ça a quand même été de plutôt privatiser. Du coup, là, c'est ni les politiques, ni la SNCF. Enfin, si, la SNCF, mais par des actionnaires à côté, les petites lignes. C'est sympa de se dire qu'il faut rééquilibrer tout ça, mais les petites lignes en province et dans le sud où j'habite, il y en a certaines qui sont déjà privatisées depuis longtemps, et ça fait que pour faire un trajet entre Digne-les-Bains et Nice, tu dois payer 40 balles.
Je suis complètement d'accord, la privatisation.
Il faudra que je revérifie les chiffres, mais je vais reprendre en disant un tarif très très fort au-delà de. Je pense que c'était au-delà de Trans entre Digne et Nice sur le train d'Épinay.
Oui, après, il y a une seule ligne en France qui a été ouverte à la concurrence et qui a été rachetée, c'est la ligne qui fait Nice-Marseille. Ça a été repris par Transdev, qui est une compagnie privée, qui est aujourd'hui la seule ligne à opérer sur le circuit ferroviaire français. Et récemment, il y a eu Trenitalia, qui a lancé des trains à grande vitesse entre Paris et Lyon, au rythme de trois allers-retours par jour, il me semble, trois trains par jour Paris-Lyon. Mais après, c'est vrai que les petites lignes françaises aujourd'hui sont bien délaissées. Tu sais de quoi on parle.
Bah ouais, je sais plutôt de quoi on parle. Moi, ce qui me fait marrer, et tu le disais dans ton reportage, c'est l'idée qu'on est toujours à essayer de faire plus de connexions rapides et faire Paris-Toulouse en 3 heures, mais Marseille-Toulouse, ça en prend toujours 6, quoi. Ouais. Donc c'est un peu compliqué.
Quelle idée de faire Marseille-Toulouse aussi.
Bah, tu passes du sud au sud, de l'est à l'ouest. Bon, on enchaîne parce qu'on y aille en train ou à pied. On va parler de musique maintenant.
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Le vendredi 1er avril, le groupe de rock post-punk anglais Shame donnait un concert explosif au Bataclan. Emma y était, elle nous raconte.
Shame fait partie de mon petit panthéon de groupes favoris depuis mes années lycée.
je ne pouvais pas rater l'occasion d'aller à ce concert. Shame, c'est un groupe qu'on dit post-punk. Il s'est formé en 2014 au Queen's Head, pub de la banlieue londonienne de Brixton. Dans la veine des groupes post-punk anglais mythiques, Shame a su s'imposer avec ses deux albums remarqués dans le milieu. À O5, ils font pas mal de bruit, en termes de décibels comme de succès, en toute humilité et avec une certaine nonchalance. Ce qui m'a d'abord interpellée, c'est que le batteur s'est retrouvé à côté de moi, dans la foule, à écouter la première partie. Personne ne l'a reconnu. J'ai alors compris qu'on ne venait pas pour les voir, mais pour les écouter. Puis il est parti et quelques minutes plus tard, le concert a vraiment commencé. Shame arrive sur scène sur une musique des Red Hot. Charlie Steen, le chanteur, hurle quelque chose en anglais et c'est parti. Sur scène, comme dans le public, se déploie une énergie folle. La foule se met à bouger en rythme et au bout de 3 secondes, elle est déchaînée. Des verres de bière volent, nous éclaboussent et déjà quelqu'un monte sur la scène pour se jeter dans le public. Si le public est à fond, le groupe vit sa musique et l'incarne. Le bassiste court sur la scène jusqu'à la chute. Peut-être qu'il avait un peu trop bu. Mais la performance est aussi signée Charlie Steen, véritable bête de scène à la fois impressionnante et déstabilisante. Il a l'allure d'un chef d'orchestre en transe, trop énergique, la gestuelle saccadée, le corps en sueur. Évidemment, on n'échappe pas au pogo. La foule suit les ordres de la musique et happe tous ceux qui céderont à la puissance d'une voix éraillée, d'un son de guitare ou de basse et du rythme acharné de la batterie. Dans ces moments-là, on ne décide plus, on est porté par l'engouement général et la folie ambiante. On essaie juste d'éviter de ne pas tomber à cause d'un vieux gobelet qui roule sur le sol. Shame a aussi joué quelques titres inédits qui promettent de belles choses pour la suite. Mais comme tous les bons moments, la fin arrive trop vite. Heureusement, ils seront de retour en France cet été pour de petits festivals ou en mai au Havre.
Et merci Emma de nous avoir emmenés en super concert. On n'oubliera pas d'aller les voir en mai au Havre. Et maintenant, c'est Clara qui nous amène en week-end à Lille.
Il faut trouver la voie.
Vous avez passé un bon week-end, mais en ce qui me concerne, c'est mitigé. Je suis partie en bus à Lille avec un ami et je peux vous dire que depuis, je ne sais pas trop ce que je dois penser de moi-même. Attendez que je vous explique. Habituellement, j'adore visiter de nouvelles villes, admirer les édifices, explorer les commerces un peu loufoques, goûter à l'ambiance des bars, voire mieux aux bonnes bières lilloises, comme ce week-end. Seulement voilà, je crois que j'ai développé un syndrome qui m'insupporte en général pas mal chez les autres. Celui du prétentieux parisien qui s'obstine à croire que sa ville est la meilleure et que les autres à côté sont vraiment médiocres. Et l'ironie de cette histoire, c'est que je ne suis même pas parisienne. Hello darkness, my old friend. Depuis que j'ai aménagé à la capitale et que je m'en suis carrément imprégnée, j'ai la sale manie de sans cesse d'évaluer les autres villes par rapport à elles. En fait, je compare tout, partout, tout le temps. Et j'ai le sentiment que rien n'arrive à la cheville de Paris. Tenez, ce week-end par exemple. Quelle fut mon indignation lorsque j'ai constaté que le métro ne desservait pas le centre de l'île. Centre-ville qui, d'ailleurs, comporte très peu de terrasses. Et en plus, elles ne sont même pas chauffées. Et pour les enjeux écologiques, on repassera plus tard puisque pratiquement aucun bar ne disposait de cendrier. Alors j'ai dû nier mes principes et jeter mes mégots par terre, j'y pense encore. En fait, à chaque fois que je suis dans une autre ville, j'ai le sentiment qu'il lui manque absolument tout de Paris. Alors me diriez-vous, c'est une chance d'aimer autant la ville où l'on vit, surtout lorsqu'on n'en est même pas originaire. Je serais d'accord, mais... C'est donc ça, aimer Paris, râler parce qu'il n'y a que deux lignes de métro à Lille, mépriser les Toulousains parce qu'ils portent tous des jeans slim retroussés, se moquer des Perpignanais parce qu'ils ne prennent jamais de spritz en terrasse. Est-ce qu'il faut absolument être arrogante pour être une vraie Parisienne? Quoi qu'il en soit, je regrette l'époque où Paris n'était pas mon point de référence, où j'étais capable d'apprécier chacune de mes virées citadines à leur juste valeur. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je songe à déménager.
J'en doute pas. Je pense que là, on arrive à un stade où il faut quitter Paris dès que les études sont finies. Ça fait trop de mal, cette ville. Bon, ce soir, on a pas mal cogité sur l'avenir des médias, puis de la France. On est allé sur les traces d'un féminicidaire, on a emprunté les rues de Lille, justement, en parlant de celles de Paris. Mais surtout, sans prendre les petites lignes de la SNCF, puisqu'elles disparaissent. Par contre, on est passé en cuisine et on va finir maintenant avec un truc qu'on a bien mérité. C'est le moment de prendre une douche froide avec Nathan.
Sous la douche.
Ah, je suis motivé là. Allez, tu sais quoi, ça part même sur une douche froide.
Ah non, peut-être pas quand même, faut pas
abuser. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as vu l'heure qu'il est? Ça va pas ou quoi?
Oh bah ça va, il est à peine 5h du matin, tu vas pas faire la gueule hein.
Alors déjà, je fais la gueule si j'en ai envie. Et je répète ma question. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure là? Tu dois aller braquer une banque ou...
Ah bah pas une fois que c'est moi qui t'embête. Non, je me suis juste couché tôt hier soir et du coup là, je suis motivé pour faire plein de choses.
Et la première chose que t'étais motivé à faire, c'était venir tailler le bout de gras avec moi. Eh bah, quel honneur.
Non, je te rassure, j'ai fait mon sport d'abord.
Ton sport? Waouh, quel homme. Ça se voit, t'as pris au moins 3 kilos de gras, là. Tu sais, à force de soulever les gros sacs de McDo et les autres trucs de malbouffe.
Très marrant. En attendant, tu m'enlèveras pas un bon humeur aujourd'hui.
Tu veux parier?
Vas-y, je te dis que tu pourras rien faire. De toute façon, aujourd'hui, je reste pas longtemps sous la douche parce que je serai pas en retard en cours non plus.
Tu vas partir trop vite, tu vas oublier tes affaires, tu vas devoir revenir en précipitation, et au final, tu vas être en retard et en sueur.
Ah ouais, ça aurait pu, ouais. Mais maintenant que tu me l'as dit...
Ok, c'est bien joué de ta part, mais je te préviens, aujourd'hui, il va t'arriver quelque chose et je te dirai absolument rien dessus.
Pour que je stresse toute la journée, c'est ça? Depuis quand t'es voyant? Non, ça marche pas non plus. Arrête, c'est...
Et si... Et si en fait t'étais dans un rêve et que t'étais absolument pas levé? Et du coup, bah, tu serais en retard à cette heure-là.
Bon, j'appellerais plutôt ça un cauchemar si je devais te supporter.
Ah oui, ok, je vois. J'arrête de parler. Mais dans ce cas, je te dirai pas non plus comment arrêter la fuite d'eau quand le pommeau de douche va te péter dans les mains.
Quand le pommeau de douche va péter dans quoi?
Oh bah alors, on commence à perdre ses moyens.
Non, je rigole. Tu croyais quand même pas que j'allais gober un tel mensonge, hein? Pas un truc aussi peu élaboré, tout de même. Oh, tu me déçois. Enfin bref, faut que j'y aille. Allez, à plus, hein?
Ouais, c'est ça. Au fait, c'est les vacances, gros nigo.
Bien essayé. Attends, non. Non, t'aurais pas osé quand même. Salaud!
Vous avez écouté Sous la douche, un podcast de Nathan pour Radio Sorbonne Université.
C'est la fin de cet épisode de Cours d'honneur, merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cet épisode de Cours d'honneur. Merci de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en passant par la page RSU, Radio Sorbonne Université. Merci à l'atelier radio de la Sorbonne d'être venu renouveler le plateau de l'asso. Merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis. C'était Blanche Monin à l'animation, Thomas Schnell à la mise en onde. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, on n'oublie pas, sur RSU, c'est ta voix qu'on écoute. Salut.
Retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.